Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et Simon Martin est à la technique. Dimanche, ce sera le dimanche des rameaux. Et donc aujourd'hui nous allons plus particulièrement parler du petit âne sur lequel est monté Jésus. Il nous intéresse beaucoup ce petit âne. Donc nous allons commencer par écouter ce récit des rameaux dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Ils s'en allèrent, trouvèrent un ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous et pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12.
Et la deuxième lecture du jour se trouve dans l'épître, première épître de Paul aux Corinthiens, les versets 17 à 31. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur.
Well, when the saints, go marching in,
go marching in.
Well, when the saints
go marching in,
good Lord, I want
to be in that number.
Well, when the saints
go marching in,
well, I had a loving mother who has gone on before.
I promised the Lord I would meet her. Well, when the saints go marching in.
Oh, when the saints, go marching in.
Go marching in.
Well, when the
saints go marching in.
Yes, I want to be in that number. Yes, when the
saints go marching in.
Well, I had a loving father who has gone, Lord, on before. I have promised the Lord I would meet him. Well, when the saints go marching in.
Oh, when the saints, go marching in.
Go marching in.
Well, when the
saints go marching in.
Yes, I want to be in that number. When the
saints go marching in.
Well, I heard the voice.
Lors de l'épisode des rameaux, Jésus entre à Jérusalem pour y être célébré comme roi par ses fidèles. Et nous voudrions nous intéresser à cette précision curieuse que Jésus fait cela assis sur un âne, ou plus précisément sur un ânon. C'est en effet étrange. L'âne n'est pas la monture sur laquelle on aurait envie de monter pour paraître royal. On a dit parfois que c'était un signe d'humilité. Jésus assumant la honte que serait pour un roi d'être jugé sur une monture aussi modeste. Mais en fait, il ne semble pas qu'il en soit ainsi. Autrefois, l'âne n'était pas une monture humble, et les rois se promenaient couramment assis sur des ânes. Simplement, cet animal avait pour particularité qu'un roi ne s'asseyait dessus que pour ses activités pacifiques. Le roi montait sur un cheval seulement pour aller faire la guerre. Ainsi, s'il est précisé que Jésus entre à Jérusalem assis sur un âne, c'est pour dire qu'il est bien le roi que l'on attend et que l'on célèbre, mais qu'il faut le comprendre comme un roi de paix. Il ne vient pas pour imposer quelque chose par la force et la violence, mais il vient dans la douceur, dans la tendresse et dans la paix.
Ce que nous venons de dire et ce qu'on enseigne aux enfants de l'école biblique est déjà pas mal, mais nous pouvons aller plus loin. Car Jésus est montré comme avançant sur un âne. C'est un choix qui le regarde, mais qui nous regarde aussi, parce que nous sommes appelés à le suivre. Jésus est le chemin, et il dit aussi « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus est donc à suivre, et en particulier sur ce chemin. Nous ne sommes pas simplement appelés à le regarder entrer à Jérusalem sur son âne, mais pour être fidèles au Christ, nous devons nous aussi monter sur notre âne et entrer à Jérusalem. Pourquoi pas ? Mais comment allons-nous nous y prendre pour cela ? Il faut évidemment décoder le texte.
Jérusalem, on sait ce que la vie représente. Dans toute la Bible, elle est la ville du temple, lieu de la présence même de Dieu. Jérusalem, c'est donc pour nous Dieu, la foi, la prière, toute cette dimension de la relation à Dieu et de la mystique. Voilà le premier élément. Nous sommes appelés à cheminer pour nous rapprocher de Dieu, faire un chemin vers le lieu de la rencontre avec Dieu représenté par le temple. Ce chemin vers Jérusalem, c'est le chemin de toute quête spirituelle. C'est le chemin de la foi. La foi, en effet, n'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. La foi est fondamentalement un chemin. C'est aller vers Dieu, se rapprocher de Dieu.
Ensuite, ce que nous enseigne notre texte est que ce chemin pour aller vers Dieu, c'est un chemin qui doit se faire au pas de l'âne. Et un âne, ce n'est pas un cheval de course. L'âne est un animal qui va lentement, qui prend son temps, qui avance doucement, tranquillement. C'est ainsi que doit être notre cheminement dans la foi, tranquillement, en douceur. Pour découvrir Dieu, s'en rapprocher, il faut aller pas à pas, avec une certaine constance et bien tranquillement. La conversion à Dieu n'est pas quelque chose de spectaculaire, c'est un long trajet. Il faut, tout au long de sa vie, suivre ce chemin doucement, comme assis sur un âne, sans éclat, sans brutalité, en douceur, en toute paix. Et ainsi simplement, laisser travailler en soi ce cheminement long et pacifique qui nous rapproche de Dieu. Cela est certainement juste, mais reste de l'ordre de l'enseignement simple et pratique. Or, quand on s'intéresse à la place de l'âne dans la tradition chrétienne, on peut être surpris de l'importance considérable qu'a cet animal, place qui ne peut être justifiée par les simples paroles édifiantes que je viens de vous servir.
We're in the middle of the night. We shot at something like a grizzly bear, but the doggone thing turned white. Yes, drop that gun. Well, away I run. Brother Bill said, boy, what's the matter with you? If you know like me, you'd run some too. I ran so fast to say they couldn't catch me all day. The way I ran across that field, they couldn't catch me with an automobile. Doo-wah, doo-wah. Brother Bill got excited. He took a shot at me. The bullet passed right by my head. Zoom! Struck a tree. Oh boy, started shuffling. Feet most touched the ground. I said, look at his feet, don't fail me now. Cause
Alabama bomb.
Drop that gun.
Drop that gun.
Well, away I run.
Do, 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 do.
Bill said, boy, what's the matter?
If you know like me, you'd run some too. I ran
so fast to say, well, they couldn't catch me all day. The way I ran across that field, they couldn't catch me with an automobile. Doo-wah, 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 doo-wah. Well, I passed right by a poker game. I wanted to win the pot. Brother Bill's gun went boom again, and I didn't have time to stop. Well, I passed right by gin mill.
À Dieu grand ciel, émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, nous parlons aujourd'hui des rameaux, avec des réflexions sur l'âne inspirées par le pasteur Louis Pernot et des extraits musicaux du Golden Gate Quartet.
Donc, l'âne a déjà dans la Bible une place de choix. Déjà dans l'Ancien Testament, c'est Balaam qui a la vie sauve grâce à son ânesse qui en sait beaucoup plus que lui. Nous trouvons ce récit dans le livre des Nombres, chapitre 22. Dans l'Évangile, l'âne est déjà là, dit la tradition, à la naissance de Jésus dans la crèche. Et c'est encore lui qui le porte pour fuir en Égypte. Et on le retrouve donc à la fin de sa vie pour son entrée à Jérusalem. Beaucoup d'ânes, d'ailleurs, ont une croix faite de poils plus foncés sur le dos, contribuant à le maintenir dans ce rôle de Christophoros, de porteur du Christ. Dans la plus antique tradition chrétienne, on trouve un graffiti à Rome qui a été découvert au XIXe siècle, représentant quelqu'un qui adore un personnage crucifié, et ce personnage sur la croix, c'est un âne. Une légende dit « Alexamène adore Dieu ». Ce dessin, bien connu aujourd'hui, est assez curieux. Pourquoi montre-t-on ainsi ce personnage en train d'adorer un âne ? On a dit parfois que c'était une sorte de dérision de la part des opposants au christianisme, accusant les chrétiens d'adorer un imbécile. L'âne, en effet, a souvent été considéré comme l'image de la bêtise, mais ce n'est pas du tout évident. Les premiers chrétiens, dans la même veine, étaient appelés à Rome les asinarii, c'est-à-dire les adorateurs de l'âne.
Et cette importance de l'âne en rapport aux chrétiens ne se limite pas à l'histoire de Rome. On a, paraît-il, trouvé en Syrie des terres cuites représentant Jésus avec des oreilles d'âne portant les évangiles sous le bras. Et la tradition a continué. En Europe, on trouve parfois des ânes associés au culte chrétien dans l'art médiéval, et cela est l'œuvre non de détracteurs éventuels, mais de chrétiens eux-mêmes. Nos églises romanes et gothiques en regorgent. Il y en a un à Saint-Brioude, un à Saint-Benoît-sur-Loire. On en trouve aussi dans les cathédrales de Nantes, de Bourges et de Chartres. Au XIXe siècle, cela a été mal compris au point que certaines de ces représentations ont été détruites. Ainsi, à la cathédrale de Strasbourg se trouvait autrefois une statue représentant un prêtre avec une tête d'âne tenant un évangéliaire. Elle a été enlevée parce qu'on trouvait que c'était insultant. On trouve encore ce type de représentation dans la magnifique petite église romane d'Aulnay de Saint-Onge. On voit un âne disant la messe. Tout cela est effectivement assez curieux.
On peut penser que cela était tout à fait assumé. Ce n'était pas une dérision, mais un enseignement renfermant une vérité essentielle, même si peu évidente à première vue. Si les chrétiens ont, au Moyen-Âge, adoré l'âne comme une image du Christ, c'est qu'il y a dans cet animal quelque chose qui nous donne un enseignement fondamental sur le Christ lui-même. Et cela à tel point qu'il y avait au Moyen-Âge, dans les églises, ou tout au moins dans toutes les grandes cathédrales, une fois par an, une fête de l'âne. C'était au moment du solstice d'hiver. Et on en a un récit assez touchant par Pierre de Corbeil, qui était archevêque de Sens aux alentours de 1200. Cette fête de l'âne était fort curieuse, et je crois qu'on n'oserait pas faire cela dans nos cathédrales, ni même dans nos temples aujourd'hui. Ce jour-là, donc, lors de la grand-messe, on faisait entrer un âne solennellement dans la cathédrale. Il était revêtu d'un manteau d'or, et il avait une grande traîne, qui était tenue par quatre des membres les plus éminents du clergé du chapitre. Dans l'église, l'âne se tenait dans le chœur, juste à côté de l'évangile. On célébrait ensuite toute la messe en son honneur. Et dans les réponses qu'il y avait après l'introït, le Kyrie et le Credo, au lieu que la foule réponde « Amen » ou « Avec ton esprit » comme on le fait aujourd'hui, elle répondait « I en ». On remplaçait tous les « Amen » de la messe par « I en », ce qui est quand même assez curieux, vous en conviendrez. La messe se terminait ainsi. Le prêtre disait « Deo gratias ite missa est, I en » et toute la foule dans la cathédrale disait trois fois « I en, I en, I en ».
Aujourd'hui, l'Église catholique romaine est assez gênée pour expliquer ce genre de choses. Beaucoup d'historiens disent que ce n'était que des manifestations populaires désordonnées, comme si on tolérait une fois par an de faire une journée où il serait possible de se moquer des autorités de l'Église en les comparant à des ânes, sorte de manifestation populaire où l'on prendrait plaisir pour un temps à inverser l'ordre social pour défouler le peuple. Mais c'est sous-estimer l'importance de la symbolique dans la mystique du Moyen-Âge. Et il faut comprendre qu'il y a là certainement quelque chose de beaucoup plus important qui se jouait. Si l'on en revient en effet à l'âne des rameaux, cet âne qui porte le Christ, nous disions que nous devions, comme Jésus, avancer sur un âne. Mais nous devons aussi être celui qui porte le Christ. Et donc, nous devions cheminer avec l'âne et comme un âne pour nous approcher de Dieu. Mais c'est parce qu'il y a dans cet animal un certain nombre de qualités extraordinaires que nous devons l'imiter.
Qualité cachée de l'âne. D'abord, on peut dire que l'âne est l'image même du bon chrétien parce qu'il a des grandes oreilles. Et des grandes oreilles, c'est très bien pour écouter. Effectivement, le chrétien est quelqu'un qui sait écouter. Écouter Dieu, qui est parole, écouter son prochain pour l'accueillir, le comprendre et l'aimer. Écouter Dieu est ce que doit faire sans cesse le croyant. Il ne suffit pas d'avoir reçu une fois le message et d'y avoir adhéré. Il faut sans cesse et toujours écouter, réécouter, lire et relire l'Évangile, se remettre en question, toujours apprendre et découvrir. En écoutant la parole de Dieu, le croyant accepte, reçoit cette parole et peut se laisser transformer par elle. Et même dans son rapport à l'autre, évangéliser n'est pas d'abord imposer à son interlocuteur un message tout fait, à la manière des acteurs prosélytes sectaires, mais d'abord écouter l'autre pour le comprendre et entrer en dialogue avec lui. En tout et pour tout, le chrétien est celui qui commence par écouter, par entendre, recevoir, accueillir. Et c'est là certainement l'une de ses plus grandes qualités pour pouvoir être disponible à l'autre et au tout autre qui est Dieu.
Après, l'âne écoute, il est vrai, mais il faut bien dire que quand il parle, ce n'est pas très plaisant. L'âne a un braiement extrêmement disgracieux et fort peu agréable à entendre. Et là encore, les chrétiens se sont reconnus dans cet âne qui braie, c'est-à-dire dans cette espèce de parole qui est rejetée par le monde, une parole qui est discordante par rapport au monde, mais qui justement s'entend et dénote. Une parole de chrétien qui ne serait qu'un doux gazouillis d'oiseau, auquel personne ne prêterait attention, manquerait sa mission. La parole du chrétien dans le monde doit être forte. Elle peut sembler discordante par rapport au monde, ou ne pas plaire, mais c'est comme cela qu'elle doit être. Il en est de même sans doute pour la prédication. Un pasteur ou un prêtre peut servir des sermons à l'eau de rose pendant des heures en parlant de la grâce, de la miséricorde, de l'amour et du pardon, mais à la longue, cela ne servira pas à grand-chose. Le discours sirupeux, dont on a trop fait souvent la prédication chrétienne, n'a plus rien à dire à personne, et je comprends qu'on s'en détourne. La prédication chrétienne, le témoignage du croyant, n'a pas à être un étalage d'évidence et de banalité doucereuse, mais il doit être une parole percutante, une parole qui dérange peut-être même, mais qui se distingue et tranche par rapport au bien-pensant mondain. Life can be so sweet on the sunny side of the stream.
I used to walk in the shade with the blues on parade. Oh, but I'm not afraid. This rover, crossover. Oh, if I never have a cent, oh, I'd be rich in Rockefeller.
D'autre part, cet âne encore, les chrétiens s'en sont reconnus dedans parce que justement il est mal considéré et souvent rejeté. L'âne, on dit qu'il est bête. L'âne, c'est celui que l'on exclut. Quand un élève ne fait pas bien ce qu'il faut à l'école, on l'envoyait dans le coin avec un bonnet d'âne pour le mettre à l'écart et le stigmatiser. Dès le moment où l'on suit l'Évangile, dès que l'on veut avoir une parole prophétique, inévitablement les autres ne le comprennent pas. C'est ce qui s'est passé pour tous les prophètes. Contrairement aux faux prophètes, disant ce que le roi voulait entendre et toujours couronné d'honneur. C'est ce qui s'est passé aussi pour Jésus. Jésus, sur la croix, se retrouve comme l'élève avec son bonnet d'âne. C'est la foule qui l'a rejeté en disant « Il nous dérange, il dit n'importe quoi, il déraille. » Et donc, on l'écarte en disant qu'il est fou, qu'il déraisonne.
Mais méfions-nous. Parfois, il y a dans la déraison, dans la folie, quelque chose de grand et de beau. Il faut se méfier de celui qu'on a trop vite tendance à catégoriser comme un âne. Il y a eu tout un mouvement intellectuel au Moyen-Âge valorisant le fou. Parce que celui qui ne se coule pas dans le moule pour être comme tout le monde a une singularité et peut-être une sagesse qui, si elle n'est pas reconnue par les institutions, n'en est pas moins remarquable. C'est ce qu'explique Paul dans ce beau passage du premier épître aux Corinthiens, chapitre 1. Il dit en substance, « Vous savez, le monde, ce qu'il cherche, ce sont des paroles de sagesse, des paroles mesurées, raisonnables, de bons petits conseils moraux. Mais, dit-il, nous ne sommes pas venus avec des gentilles petites paroles bien mesurées. Nous sommes venus vous prêcher la folie de la croix, folie pour les hommes, parce que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes, et la folie de Dieu est plus sage que les hommes. »
Voilà donc le message de l'âne. Le chrétien doit avoir ce courage de paraître fou pour le monde, de paraître un âne pour les autres, d'être incompris, d'être considéré comme discordant. Il est rejeté, certes, mais c'est lui qui est dans la vérité. Il faut bien sûr nuancer en disant que ce n'est pas parce qu'on est rejeté par le monde qu'on dit forcément la vérité. Tous les fous ne sont pas des génies incompris. Le fait d'être rejeté, critiqué par le monde, n'est pas la preuve que ce que l'on dit est grand, beau et formidable, mais néanmoins, il est certain que si l'on dit une parole prophétique dans ce monde, on est forcément critiqué. Et peut-être aussi que si l'on n'est pas critiqué, c'est que l'on n'a pas su avoir dans ce monde une parole suffisamment forte. Et d'ailleurs, il est très injuste de dire que l'âne est bête. Il ne l'est pas. Il est même beaucoup plus intelligent qu'un cheval. Et en soi, le chrétien n'est pas un imbécile. Il est plutôt un incompris. Il peut passer pour fou, mais il ne l'est pas du tout. Il faut donc se méfier des jugements des hommes. Ce ne sont pas ceux qui ont le plus de succès ou d'honneur qui sont les meilleurs.
À partir de là, il faut, comme l'âne, être têtu. L'âne est formidable aussi parce qu'il est têtu. Il va là où il veut aller, et s'il n'a pas envie d'avancer, on peut toujours lui taper dessus, il n'avancera pas. Le chrétien, de même, doit avoir cette force, même si des pressions diverses veulent le pousser à agir contre sa conscience et sa conviction, il ne le fera pas. Sa foi lui permet d'avancer dans ce monde avec détermination, constance, sans se préoccuper des jugements des autres, des railleries, des colibés, ou du désaccord, ou du sentiment du ridicule. Le croyant y croit, et il avance. Pas forcément vite, mais il avance sans que rien ne le fasse se détourner de là où il voulait aller. D'ailleurs, une autre qualité de l'âne encore, c'est qu'il a un pied sûr, bien plus qu'un cheval. Il peut avancer partout, dans tous les terrains, sans jamais trébucher, et on peut avoir confiance en lui.
Et nous sommes invités à avancer ainsi avec courage, avec résolution, d'une manière opiniâtre et patiente, à petits pas dans une bonne direction, sans avoir peur de paraître fou pour le monde des hommes, sans avoir peur d'émettre au milieu des autres le son discordant de ce « i-an » qui choque les oreilles. Oui, nous sommes invités à être des ânes pour labourer les vignes du Seigneur. Et ainsi, nous pourrons avancer vers Dieu avec douceur, constance et paix. Nous sommes invités à avancer tout en sachant toujours écouter avec nos grandes oreilles. Avancer en sachant que celui qui est méprisé par les hommes, peut-être, est le premier pour Dieu, comme l'a été le Christ. Il faut avoir le courage d'être différent, de donner de la discordance dans ce monde, de témoigner, de faire entendre sa voix, d'être fou parmi ceux qui se croient sages. Y en, alors ?
Et amen.
Cette émission se termine. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres et que nous serions très heureux de vous y accueillir. Au revoir et à bientôt.